Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, je peux m'excuser, la conférence précédente s'est interrompue d'un seul coup. J'ai dû faire une fausse manœuvre avec mon enregistreur, ou il s'est arrêté tout seul, je ne sais pas. De toute façon, il s'est arrêté au moment où j'allais arrêter la conférence. Donc, je vais reprendre exactement à l'endroit où je me suis arrêté. Donc, je suis toujours dans ces explications que je vous donne. C'est une espèce de résumé de l'œuvre magistrale de l'abbé Barbier, donc sur les origines et l'histoire du catholicisme libéral en France. Donc, l'abbé Barbier va essayer d'analyser le pourquoi du fait que les gens n'ont pas su, les catholiques n'ont pas suffisamment suivi le comte de Chambord à la fin du 19e siècle, et comment ils ont été trompés par les sirènes du libéralisme. Eh bien, il va expliquer que l'ouvrier, surtout à son époque et encore aujourd'hui d'ailleurs, est démocrate dans l'âme. Et il ne se prête pas, dit l'abbé Barbier, à être embrigué religieusement. Or, à cette double résistance a correspondu une évolution politique, religieuse et sociale du pays, qu'il a devé singulièrement entretenir et fortifier. Ainsi, laissant de côté l'effet qu'une poussée de démocratisme sans frein dévergondé devait inévitablement produire sur les classes populaires déjà trop férues des principes d'égalité et dévorées de la vie sociale, cette prise complète de possession du pouvoir par l'anticléricalisme ne devait pas moins nécessairement détourner ces classes des centres d'action catholique. Je vous rappelle que le système syndical va remplacer le système fondé par le roi Saint-Louis, le système corporatif. Autant le système corporatif suit la loi naturelle, par un classement vertical de l'autorité qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, autant le système syndical suit un système horizontal d'opposition entre les différentes strates, classes de la société. Et donc le système syndical va former des anticatholiques, et c'est exactement ce qui s'est passé, on le voit très très bien aujourd'hui. Donc il faut faire attention, parce que la masse, le peuple, surtout en France, suit à l'égard de la religion, l'exemple et l'impulsion de ceux qui détiennent la puissance publique. On le voit encore en France. Nous avons depuis maintenant de longues années, même, on peut dire depuis la Révolution française pratiquement, nous avons des anticatholiques qui gouvernent la France. Le pouvoir politique a toujours été, depuis la Révolution, très fortement anticatholique. Il suffit de le voir avec Macron aujourd'hui. Et le fait de cet anticléricalisme qui vient d'en haut, va avoir une influence considérable sur le peuple de France. Quand la plupart des Français ne sont pas très malins, ils vont se faire rouler par cet anticléricalisme. On voit les églises parfois se remplir, au moins au temps du 19e siècle, le clergé était respecté, les œuvres catholiques prospéraient. Mais s'ils se montrent hostiles à l'église, s'ils font la guerre au catholicisme, l'indifférence, la crainte et l'aversion succèdent rapidement à cette faveur. On voit très bien que avec l'arrivée du ministère Combes, autour des années 1905. Donc on va voir d'un seul coup l'anticléricalisme éclater en France et la plupart des gens, les ouvriers surtout, vont suivre cet anticléricalisme. C'est de la bouche de Saint-Pilice qu'est tombé cet aphorisme, les peuples sont ce que les gouvernements veulent les faire. Donc on suit malheureusement l'influence de nos politiciens. Si les politiciens sont complètement véreux, complètement pourris sur le plan moral, ce qui est le cas actuellement en France, de plus en plus, eh bien les Français vont tomber dans cette pourriture. L'ordre moral n'est pas séparable de l'ordre chrétien, des principes du droit chrétien qui étaient la base de son régime. Renier ces principes et prétendre assurer l'ordre moral en les répudiant est une folle tentative. On ne peut pas remettre une société catholique sans reprendre les principes catholiques. Je vous l'ai déjà dit 25 fois, mais j'insiste là-dessus pour que ça rentre dans les esprits de ceux qui m'écoutent. On ne peut pas organiser une lutte contre la contre-révolution avec les principes même de la contre-révolution. On ne peut pas, je reprends. On ne peut pas organiser une lutte contre la révolution si on utilise les principes même de la révolution pour essayer de lutter contre elle. C'est exactement ce qui se passe en France. Qu'est-ce que voulait le gouvernement français à la fin du 19e siècle? Il voulait une séparation totale entre l'Église et l'État. Voilà ce qu'il voulait. Séparation totale entre l'Église et l'État pour empêcher le retour d'un règne social. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque, début du 20e siècle, et c'est ce qui s'est passé encore de façon peut-être presque plus marquée encore, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'était tout le travail de Gaulle. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est très habilement débarrassé de toute l'élite catholique française qui était susceptible de ramener une autorité catholique en France. C'était ce qu'on appelait l'épuration. L'épuration de 1945 est une des pages les plus odieuses de l'histoire du pays. Les historiens ne sont pas d'accord entre eux, mais enfin tout le monde est d'accord qu'il y a eu au moins 150 000 crimes, victimes. Donc De Gaulle a fait assassiner à ce moment-là 150 000 catholiques, surtout dans l'armée, surtout dans les milieux politiques, pour être sûr que personne ne puisse lui faire d'ombre. C'est exactement ce qui s'est passé. Quelle tristesse. Mais le père, l'abbé Barbier, va citer Gambetta. J'entends que l'Église reste l'Église, qu'elle ne descende jamais sur la place publique, qu'elle n'entre jamais dans le Parlement ni dans les conseils de l'État. J'entends que, résignée à poursuivre sa carrière de consolation purement spirituelle, elle se dépense dans ce domaine et que jamais elle ne vienne semer la discorde dans les débats et les controverses politiques. Est-ce la séparation de l'Église et de l'État que Gambetta réclame ainsi? Non. Les républicains les plus ardents la revendiquent dans leur programme. Ils font bien, mais ils devancent le temps. La question n'est pas mûre encore. Avant, il faut séparer l'Église de l'école. Et cela fait comprendre pourquoi le gouvernement français s'est d'abord attaqué à l'école. Enlever l'école des mains des catholiques. Au XVIIIe siècle, après la Révolution française, déjà avant, mais avec la Révolution française, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Les révolutionnaires ont arraché à l'Église catholique l'enseignement primaire, puis ensuite l'enseignement secondaire à la fin du XIXe siècle. Donc, ils savaient que si on arrivait à séparer l'Église de l'école, on arriverait à enlever le bon Dieu de l'âme de nos petits-enfants dans les écoles primaires. Et enlevant l'âme de nos petits-enfants dans nos écoles primaires, nous préparerons évidemment par la force des choses des païens. Ensuite, il serait facile d'obtenir la séparation de l'Église et de l'État. Et pour obtenir la séparation de l'Église et de l'État, c'est fait tout le travail d'Aristide Briand. Pour obtenir la séparation de l'Église et de l'État, il fallait d'abord arracher les âmes des enfants à l'influence de l'Église. Les libéraux, eux, ont toujours trouvé inopportun de porter ouvertement la défense sur le terrain religieux, alors que l'ennemi fait sa plateforme de l'attaque contre les institutions chrétiennes. C'est l'esprit protestant qui a dirigé la marche des choses et emporté la victoire de la République contre le catholicisme. N'oubliez pas que l'esprit protestant et l'esprit maçonnique au XIXe siècle sont comme les deux doigts d'une même main. Ils marchent main dans la main, littéralement. La révolution, c'est une belle définition donnée par l'abbé Barbier. La révolution n'est ni un acte ni un fait, Elle est une doctrine sociale, une doctrine politique qui prétend fonder la société sur la volonté de l'homme au lieu de la fonder sur la volonté de Dieu et qui met la souveraineté de la raison humaine à la place de la loi divine. C'est l'adoration de l'homme qui devient Dieu au lieu d'adorer Dieu qui se fait homme. À mettre en parallèle avec la belle définition très connue de Mgr Gaume, haine formelle de toute horde dans laquelle l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Donc il faut comprendre ça, l'esprit protestant et l'esprit maçonnique sont en quelque sorte comme une seule et même chose. Et cet esprit maçonnique, cet esprit capitaliste, peuvent être vraiment considérés comme des filles naturelles du protestantisme. N'oublions pas que le protestantisme a précédé la franc-maçonnerie. Le protestantisme, c'est 1517, Martin Luther. Mais le protestantisme va se développer d'abord surtout en Angleterre avec l'apostasie du roi Henri VIII. Et c'est en Angleterre précisément que deux siècles plus tard, autour des années 1717, nous verrons les prémices de la franc-maçonnerie avec les constitutions d'Anderson et le travail de Desaguliers. Ensuite, ce sera immédiatement après, donc nous sommes en 1717, nous verrons après le travail de la franc-maçonnerie aux États-Unis pour faire la révolution américaine. 1776 et ensuite la Révolution française 1789. Comme les États-Unis étaient imprégnés de protestantisme, la Révolution américaine s'est faite et passée comme le couteau à travers le beurre. Pourquoi? Parce que l'esprit protestant de la plupart des Américains correspondait tout à fait à l'esprit des philosophes des Lumières. Par contre, en France, vieux pays de souche catholique, la Révolution maçonnique n'a pu pénétrer que par la guillotine et par des ruisseaux, des fleuves de sang. Pourquoi? Parce que le catholicisme était l'ennemi naturel de la Révolution. C'est pour ça que le plus grand allié de la République maçonnique, c'est toujours le protestantisme. On le voit très bien, c'est beaucoup plus net aux États-Unis encore qu'en France, où tout le système capitaliste est chapeauté par le protestantisme. Ou l'inverse, c'est aussi vrai. Le capitalisme va aussi chapeauter tout le système protestant. Donc c'est bien la vérité que dit, qu'explique l'abbé Barbier. La révolution est une doctrine politique qui prétend fonder la société sur la volonté de l'homme, au lieu de la fonder sur la volonté de Dieu. C'est là qu'est la révolution. Le reste n'est rien. Ou plutôt, tout le reste découle de là, de cette révolte orgueilleuse d'où est sorti l'État moderne. L'État qui a pris la place de tout, l'État qui est devenu votre Dieu et que nous refusons à adorer avec vous. La contre-révolution contraire, dit l'abbé Barbier, c'est le principe contraire, c'est la doctrine qui fait reposer la société sur la loi chrétienne. Donc pas de contre-révolution possible sans christianisme. Pas de contre-révolution possible sans faire reposer la société sur la loi chrétienne. Donc sur la loi des 10 commandements de Dieu. On va nous accuser de vouloir rétablir l'Ancien Régime. Bon, mais il faudra d'abord s'entendre là-dessus. Nous ne voulons ni l'Ancien Régime, ni la Révolution. Ce que nous voulons, c'est la société chrétienne, dit l'abbé Barbier, qui est le règne de la liberté vraie, dont vous ne nous avez jamais donné que la caricature. Le règne de la liberté fondée sur la foi religieuse, établie par la tradition et garantie par le dévouement des forts envers les faibles. La société chrétienne, c'est donc l'alliance de l'Église et de l'État, et la révolution, ce que vous voulez, vous, c'est l'Église asservie par l'État. Donc, en fait, la révolution ne peut pas fonctionner sans une séparation complète entre l'Église et l'État. Et pour préparer cette séparation complète entre l'Église et l'État, il fallait d'abord arracher le bon Dieu du cœur des enfants de France. Et c'est ce qui a été fait par tout le combat pour enlever, arracher à l'Église catholique le soin des écoles primaires. Les écoles primaires en France, au Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution, et même après, au moins jusqu'à la Révolution, ces écoles primaires étaient entièrement, surtout, aux mains des religieuses. Les religieuses ont fait un travail extraordinaire dans toutes les paroisses de France. Il y avait ces monastères de religieuses qui étaient souvent des fondations locales d'ailleurs et qui ont fait un travail extraordinaire pour préserver l'âme des enfants des miasmes du protestantisme, des miasmes du libéralisme, des miasmes du laïcisme et des miasmes de l'esprit maçonnique. Et malheureusement, avec la Révolution, tout ça a sauté et l'Église a volé à l'État, a volé à l'Église Toutes ces écoles, ensuite, elle s'est attaquée à l'université pour récupérer aussi le monopole universitaire. Donc, cette société chrétienne, c'est vraiment l'alliance de l'Église et de l'État. Et la Révolution veut l'Église asservie par l'État, séparation de l'Église et de l'État. Et la Révolution n'a pas pu passer vraiment dans les mœurs sans d'abord, encore une fois, cette séparation de l'âme des enfants en France avec l'Église catholique. Et n'a pas pu, la Révolution n'a pas pu continuer le dégât sans une séparation totale entre l'Église et l'État. Alors, j'ai terminé là le tome 1, enfin le résumé du tome 1 de l'abbé Barbier, donc de l'histoire du catholicisme libéral. Il y a 5 volumes. Je vais commencer maintenant l'étude du tome 2. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de faire un résumé exhaustif de cette œuvre extraordinaire, parce que j'ai pas le temps, ça prendrait des centaines de vidéos de tout expliquer, que cela vous donne au moins le désir d'aller aux sources, d'aller lire le livre. Donc, le premier volume de l'œuvre de l'abbé Barbier va se terminer avec la mort du pape Pie IX. Il est mort le 7 février 1878, après avoir régné depuis 1846, pendant 32 ans. C'est le pape qui a le plus régné dans l'histoire de l'Église, après Saint-Pierre, si on compte la période de Saint-Pierre à Antioche. Si on rajoute la période de Saint-Pierre à Antioche à la période de Saint-Pierre à Rome, on dépasse le temps de règne du pape Pie IX. Donc c'est vraiment Saint-Pierre qui a été le pape qui a régné le plus longtemps. Immédiatement après lui, c'est Pie IX. Alors, Pie IX était vraiment un barrage, si vous voulez, pour toutes ces idées modernes, un rempart extraordinaire. Malheureusement, le pape qui l'a suivi, à savoir le pape Léon XIII, le pape Léon XIII n'aura pas la force doctrinale qu'avait le pape Pie IX, même si le pape Léon XIII avait une force spirituelle assez extraordinaire. C'était certainement un très grand pape, même un très saint pape, mais qui avait malheureusement une fissure, si vous voulez, dans le mur de protection autour de son âme. Une faiblesse, et cette faiblesse, c'était son esprit démocratique en matière politique. Il croyait en la démocratie. Ce fut la même erreur que nous allons trouver, avec les mêmes conséquences catastrophiques, chez le pape Pie XI. Donc Léon XIII et Pie XI, qui étaient tous les deux des très bons papes, attention, je ne mets pas du tout en cause la légitimité de ces deux papes. Cependant, on est bien obligé de reconnaître que Léon XIII et Pie XI ont fait des dégâts épouvantables, justement parce qu'ils croyaient en la démocratie politique. Ils se sont fait rouler complètement, et quand ils s'en sont aperçus, ben, c'était trop tard. C'est pour cela que le pape Pie XI va condamner la guerre des Cristeros avec les arrigos du 29 juin 1929. C'est pour cela que le pape Pie XI va aussi condamner l'action pro-française, alors que Saint-Pélice avait compris qu'elle était condamnable, cette action française, mais surtout pas à condamner, parce que tous les catholiques français la suivaient. Et Léon XIII, malheureusement, fut, hélas, le pape ce libéralisme pratique qui s'appelle le ralliement en 1892, dont nous allons maintenant beaucoup parler, avec le deuxième tome de l'œuvre du père Barbier, pardon. Et le ralliement a tué la France catholique. On peut vraiment, moi je suis persuadé que la date de décès de la France catholique, c'est 1892, c'est pas 1789. 1892, le ralliement. Parce qu'il y a eu énormément de martyrs en 1789, et donc ce sang des martyrs est une semence de chrétienté extraordinaire pour la France. Par contre, en 1892, malheureusement, la plupart des catholiques se sont fait rouler par les idées démocrates de Léon XIII et ont suivi ce qu'il demandait, c'était la fin de la France catholique. Alors, sous Pie IX, ce n'est pas le monde presque entier, ce ne sont pas les nations qui étaient aussi à l'autorité de Saint-Pierre, ce sont les gouvernements. Cela est tout à fait différent. Il faut savoir que les peuples, surtout le peuple romain, c'est notoire, historique, professait pour Pie IX un attachement, un enthousiasme peut-être sans précédent dans les annales de l'Église. Jamais un pape n'a autant été aimé et vénéré comme le pape Pie IX, qui est d'ailleurs tout à fait canonisable. Son procès de canonisation avait été commencé avant Vatican II. Évidemment, il a été complètement arrêté, rapidement arrêté.
Parce qu'il n'est pas question qu'on canonise dans l'Église de Vatican II le pape qui est le pape du syllabus, le pape de Contacora, le pape de la condamnation de la liberté religieuse. Alors, si Léon, le pape Léon XIII s'appliqua et dans une mesure appréciable réussit à se concilier ses gouvernements hostiles, au moins en partie, il est également notoire que cela n'alla pas sans quelque diminution de cette affection des peuples pour la papauté. Une certaine sécheresse, si vous voulez, extérieure chez Léon XIII qui l'a coupé des masses, surtout du peuple romain, peuple catholique romain. Alors qu'au contraire, Pie IX avait cette bonhomie, cet enjouement, cette bonté vraiment extraordinaire qui avait ouvert le peuple de tout le peuple, tous les cœurs du peuple romain jusqu'à sa mort en 1878. Alors, avec l'arrivée du pape Léon XIII, donc nous voyons un changement net dans la politique pontificale. Surtout qu'au même moment, juste après, il va y avoir aussi la mort, donc la mort de Pie IX en 1878, et après, ce qui a coupé l'arbre sous les pieds de tous les catholiques en France, la mort du comte de Chambord et de Louis Veuillot en 1883. Et dès 1890, c'est le toast d'Alger fait par Monseigneur de la Vigerie. Monseigneur de la Vigerie, qui était un libéral, un fieffé coquin, qui a commencé, plus ou moins sous l'ordre du pape Léon XIII, à préparer les esprits à accepter le ralliement. Donc on est en 1890. Le ralliement, c'est 1892. Donc c'est en 1880, à propos de l'affaire des décrets, que Monseigneur La Vigerie a préconisé le ralliement des catholiques à la forme républicaine. Et Monseigneur La Vigerie va se retrouver évêque d'Alger. Il arriva seulement que le droit des congrégations à l'existence paya les frais de ce coup de génie et que les forces de résistance des catholiques à l'anticléricalisme, alors si compactes et résolues, furent irrémédiablement disloquées. Donc par le toast d'Alger, toast au libéralisme, au ralliement, déjà aux idées du ralliement qui se préparaient dans les esprits sur ordre du pape Léon XIII, eh bien l'union très serrée qui existait entre les catholiques contre les gouvernements maçonniques d'Europe, surtout en France, eh bien cette union va complètement se disloquer. Donc, je répète, mort du pape Pie IX 1878, mort du comte de Chambord et de Louis Veuillot en 1883, toast d'Alger de Monseigneur de la Vigerie en 1890. Mais ce n'était pas sans avoir passé par des dispositions différentes que Léon XIII en était arrivé à prendre ce parti. Bon. Mais les informations, c'est ce que dit l'abbé Barbier, c'est lui que je cite. Les informations ultra-tendancieuses de Monseigneur La Vigerie finissaient par faire prendre le change à Rome sur les causes de la résistance catholique et sa malheureuse insistance à transformer l'affaire en une question politique. Et cela devait aboutir à faire entrevoir au pape dans la solution proposée une occasion d'appliquer ses vues dans cet ordre. Donc Léon XIII dit clairement qu'il a été détourné de protester publiquement contre les gouvernements maçonniques par les négociations concertées entre Monseigneur La Vigerie et le gouvernement français et par les avantages qu'on lui faisait espérer de la déclaration. On voit exactement la même erreur dans les Areglos au temps de Christéros quand Pie IX, que le pape Pie XI en 1929 s'est fait complètement trahir par une de ses éminences grises, pardon. Le père Walsh, un jésuite de Rome, et surtout par l'âme damnée du gouvernement américain au Mexique, qui était Dwight Morove, qui était l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, et qui a littéralement roulé dans la farine complètement Léon XIII en lui faisant croire que les évêques, tous les évêques, que les évêques mexicains voulaient tous la paix, que le gouvernement voulait la paix religieuse et que c'était les Cristeros qui empêchaient cette paix religieuse. Trompé par ces mensonges, eh bien, le pape Pie XI a à ce moment-là demandé aux Cristeros d'arrêter les combats. On lui avait garanti qu'il n'y aurait pas d'atteinte faite aux vies et aux propriétés des Cristeros, évidemment. Donc il a donné à ce moment-là l'ordre Donc les stéros arrêtaient les combats, et dès que le fusil leur est tombé des bras, eh bien, Caliès, puis aux brigands. Les présidents maçonniques mexicains ont fait fusiller tous les, pratiquement tous les cristeros sur lesquels ils ont pu mettre la main. C'était un bain de sang. Et malheureusement, le pape Pie XI s'en est pas rendu compte tout de suite. Quand il s'en est rendu compte, c'était trop tard. Je note, et ça c'est très important à comprendre, que ces erreurs politiques énormes du pape Pie XI et de Léon XIII ne sont pas couvertes par l'infaillibilité pontificale. Bien sûr que non, parce que ce ne sont pas des textes ou des décisions concernant la foi et les mœurs. Ce sont des décisions purement politiques. Alors, nous reprenons le texte de Léon XIII. Donc, après les tentatives de Mgr Lavigerie, la pression de Mgr Lavigerie, l'évêque d'Alger, pour obtenir une alliance de la part du pape Léon XIII avec le gouvernement français. Le gouvernement français n'avait aucune intention de faire alliance avec le pape. Mais Léon XIII a cru, Mgr Lavigerie, a cru l'âme d'un... Et donc c'est ce libéral qui était Mgr Lavigerie qui lui disait le gouvernement français veut la paix, il demande qu'une seule chose, c'est que les catholiques viennent travailler avec lui, mais malheureusement les nationalistes catholiques en France empêchent ce travail d'union. Léon XIII l'a cru et a demandé aux catholiques de s'unir avec la République, ce qui a été une catastrophe. Ça a entraîné des millions et des millions de littéralement d'apostasie. L'influence maçonnique a été décuplée en France à cause de cette erreur politique d'une très grande importance. Voilà ce que disait le pape Léon XIII. Comme les plaintes formulées par notre nonce n'avaient rien obtenu, nous étions sur le point d'élever notre voix apostolique, comme c'était notre droit et notre devoir, contre les actes déjà accomplis ou qui le seraient plus tard en vue de détruire les ordres religieux. Donc, le pape Léon XIII reconnaît qu'il avait eu l'intention au départ de continuer la ligne, si vous voulez, de Pie IX, contre le gouvernement français. C'est alors que le cardinal Lavigerie nous représenta qui avait chance d'arrêter l'exécution des décrets anticatholiques si les membres des congrégations déclaraient par écrit qu'ils étaient étrangers aux agitations et aux manœuvres politiques et que ni leur manière de vivre ni leurs actes n'avaient rien de commun avec l'esprit de parti. De nombreux et graves motifs nous persuadèrent d'accepter une offre faite spontanément par les gouvernements eux-mêmes, ce que dit Léon XIII. Cette proposition d'ailleurs n'avait rien de contraire ni à la doctrine catholique ni à la dignité des ordres religieux. Elle avait cet avantage de détourner de la France un malheur redoutable, ou du moins semblait-il, d'enlever aux ennemis des congrégations une arme dont ils ont souvent abusé contre elles. Donc le pape Léon XIII va demander à ce moment-là, nous sommes donc autour des années 1890-91, il va demander à ce qu'on commence à rompre l'alliance de l'Église avec les anciens partis. Les anciens partis, c'était quoi? C'était des partis monarchiques, monarchistes. Ce fut donc cette maxime, rompre l'alliance de l'Église avec les anciens partis, le mot d'ordre qui devait expliquer et qui guida tous les actes de cette politique inaugurée en 1880 avec le toast d'Alger, avant le toast d'Alger, puisque le toast d'Alger sera en 1890, et qu'on traduisit en 1890 en disant il faut briser les vitres avec les anciens partis. Les anciens partis, c'était les partis catholiques, les partis monarchistes, qui étaient tous catholiques à l'époque. Dans la pratique, cela signifie quelque chose de plus brutal encore, explique l'abbé Barbier. On n'osait pas l'annoncer ouvertement comme une règle générale, mais tout l'effort y tendait, car c'était le moyen nécessaire pour prouver la rupture. Il fallait évincer les catholiques monarchistes et écarter leur concours dans la direction de la défense. N'était-ce pas là le gage indispensable à donner? Sans parler de l'injustice et de l'ingratitude qu'impliquait cette conduite, si l'on songe qu'à cette époque, Il n'existait même pas de républicains franchement catholiques, si ce n'est par très rares exceptions, et que presque tous les hommes politiques ou hommes d'action fidèles à l'Église, tous ceux dont on avait su, dont on avait si largement jusqu'à la mise à contribution et dévouement les conseils et le concours matériel, ils étaient tous des hommes de tradition monarchiste. Comment s'empêcher de reconnaître dans cette nouvelle tactique une mise en action de l'apologue des brebis qui livrent aux loups leurs chiens en otage? Encore les loups de la République n'avaient-ils point fait aux troupeaux craintifs des avances de paix? Si pénible que fût que soit ce spectacle, il faut voir Monseigneur Lavigerie à l'œuvre dans l'exécution de ce plan. Et là, quand vous lisez un peu les discours de Monseigneur Lavigerie, on croirait vraiment entendre Bergoglio. Hein, c'est exactement le même état d'esprit, un état d'esprit libéral. Et on dit qu'avant de mourir, le pape Léon XIII a regretté son action politique. C'est sans doute vrai, mais le mal était malheureusement fait. Et il n'a pas pu être défait. De même qu'on dit que le pape Pie XI, s'était rendu compte de l'erreur qu'il avait faite d'avoir condamné l'action française. Et qu'avant de mourir, il serait même allé voir Pacelli, le cardinal Pacelli, qui deviendrait le pape Pie XII, parce qu'il s'est douté que ce serait lui qui serait élu pape. Et il l'a pris à part avant de mourir en lui disant, d'après ce que je sais, vous allez devenir mon successeur, et quand vous serez mon successeur, vous enlèverez cette condamnation que j'ai faite de l'action française. Parce que moi, je ne peux pas le faire, moi-même, disait-il, papille 11, mais vous, vous le ferez. C'est ce qui s'est passé. Et un des premiers actes religieux du pape Pie XII a été de faire sauter l'excommunication des catholiques et unir l'action française. Mais c'était trop tard. Le mal avait été fait. Et encore une fois, entre le ralliement 1892 et les erreurs politiques de Pie XI, en matière de libéralisme politique et d'esprit démocratique, avait détruit complètement, énervé dans le sens d'enlever le nerf, si vous voulez, de la colonne vertébrale de tous les catholiques français en France. On s'en est jamais, jamais relevé. Vous voyez, l'histoire est faite d'éternels recommencements. On revoit les mêmes erreurs partout. Avec quand même, je vous l'ai déjà dit, mais ça, il faut bien le comprendre, une différence énorme entre notre situation actuelle et la situation des catholiques sous le pape Léon XIII. C'est qu'à l'époque, même si le pape Léon XIII a fait d'énormes erreurs en matière politique, en matière religieuse, il n'y a rien à redire. Les arguments, l'autorité en matière de doctrine du pape Léon XIII est tout à fait parfaite. On ne peut donc dire que le pape Léon XIII était un libéral en matière de doctrine. Ça, c'est complètement faux. Par contre, il était libéral en matière politique parce qu'il était démocrate. Et cette démocratie a complètement détruit et chez lui, toute cette bonne volonté catholique qu'il avait. Et l'abbé Barbier va jusqu'à dire, voilà, c'est une de ses thèses, voilà ce qu'il disait, « Quoique le souverain pontife Léon XIII ait enseigné aussi fortement qu'aucun de ses prédécesseurs les droits de l'Église et de Dieu, dans la société civile et le devoir pour les chrétiens d'y soutenir ses droits, sa politique libérale a directement et très efficacement contribué à affaiblir en France et à faire tomber en désuétude l'énergique défense de cette cause sacrée qui avait illustré précédemment les évêques et les catholiques de ce pays et y maintenait la foi vivace. » Des paroles très très fortes, mais il avait raison, il avait vu tout ça. Ensuite, il va préciser, l'abbé Barbier va préciser, quoique le souverain, c'est sa thèse numéro 2, quoique le souverain pontife Léon XIII ait condamné plus d'une fois le libéralisme comme ses prédécesseurs et l'ait réfuté avec une grande force dans ses encycliques, sa politique a considérablement favorisé la diffusion de toutes les erreurs sociales et religieuses qui sont à notre époque autant de formes du libéralisme. Donc les organes du ralliement de Léon XIII se sont portés vers les nouveautés religieuses par ce motif que les réfractaires les combattaient. et tous les novateurs sont du côté du ralliement de Léon XIII, tous les défenseurs de la doctrine du côté des prétendus réfractaires. Sans la politique du ralliement, le souverain pontife Léon XIII, si ferme dans ses volontés, n'aurait pas montré tant de longanimité envers ses novateurs. Et quand le débat publiquement soulevé sur l'américanisme, qui résumait toutes ces doctrines nouvelles, l'américanisme, c'est rien d'autre que la religion de la démocratie, hein. Quand cette montée de l'américanisme souleva, appela cette décision, Léon XIII, pour remplir le devoir de sa charge suprême en condamnant les erreurs, c'est l'encyclique Testem Benevolentiae de 1899. Mais même alors, ce fut, dit Léon XIII, en ménageant les partisans de ce système dont il avait besoin pour sa politique. Sans scruter les fins mystérieuses de la Providence pour lesquelles Léon XIII a été élu successeur de Saint-Pierre, on peut croire que Dieu a voulu donner au monde une preuve de l'infaillibilité du pape et en même temps marquer les limites et le caractère de cette infaillibilité. L'abbé Barbier précise ensuite, c'est très bien expliqué, comme personne privée, comme homme politique, le souverain pontife Léon XIII s'est trompé dans des questions de la plus haute, de la plus grande importance, et ses erreurs ont eu des conséquences désastreuses. Il a servi inconsciemment, mais très efficacement et constamment d'appui aux ennemis de l'Église, et son gouvernement, tant exalté par les libéraux, a singulièrement favorisé leur progrès. Mais ce même pape, et ça c'est la partie importante, ce même pape, Léon XIII, a rempli sa fonction de docteur universel avec l'assistance visible du Saint-Esprit quand il enseigne les membres de l'Église et les peuples chrétiens la pureté, l'ampleur, la majesté de sa doctrine rayonnant sur le monde. Léon XIII a commenté admirablement et confirmé en toutes circonstances les sentences portées par ses prédécesseurs Grégoire XVI et Pie IX contre le libéralisme. Ces encycliques contiennent donc la réfutation et la condamnation de toutes les erreurs qu'on a propagées dans son règne à la faveur de sa politique. Donc les encycliques de Léon XIII, dit l'abbé Barbier, les encycliques de Léon XIII renferment la condamnation de sa propre politique. Donc de quoi sait-on les avantages? Ou qu'un politique si imbu de l'esprit libéral ait pu être un pape aussi ferme dans la doctrine? Qu'un pape vengeant avec tant d'autorité les droits de Dieu et de l'Église ait pu se montrer un politique aussi enclin au libéralisme. Le libéralisme qu'il s'agirait d'amener à l'esprit du catholicisme est donc cette doctrine qui, par contradiction avec le double principe d'autorité et d'hiérarchie sociale, sur lequel l'État reposait antérieurement à la Révolution, se flatte de trouver dans les principes opposés de liberté et d'égalité la solution de tous les conflits. J'ai déjà cité ce texte. Les principes fondamentaux du droit nouveau introduit par la Révolution et destiné à fonder un ordre social profondément différent de l'ancien consiste dans une conception de la loi et de la société permettant de se passer de Dieu. C'est pour ça qu'il est très important pour les catholiques d'étudier à fond les erreurs politiques du pape Léon XIII, et d'étudier en contrepartie sa doctrine, qui elle est parfaite, la doctrine magistérielle du pape Léon XIII, il n'y a rien à redire là-dessus, c'est parfait. Il faut mettre cela, évidemment, ensuite aux doctrines très fermes des papes, du pape Pie IX surtout, du pape Pie IX avec Quanta Cura et le syllabus. Donc, doctrinalement parlant, en matière de doctrine, de dogme, il n'y a rien à redire dans le magistère du pape Léon XIII. Il y a beaucoup à redire, malheureusement, au niveau de ses choix politiques. Encore une fois, ce sont des choix politiques. Mais on apprend énormément à étudier ces erreurs de politiques de Léon XIII parce que c'est ça qui nous a tués en France. Si on ne veut pas faire les mêmes erreurs, il vaut mieux bien connaître ces principes-là. Donc vous savez que, vous ne savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, que évidemment, l'abbé Barbier a expliqué ces choses-là, ces textes que je viens de vous lire, de façon peut-être un peu trop directe. Et finalement, son livre sur les progrès du libéralisme sous pontificat de Léon XIII a été mis à l'index. Bon, il y a toute une histoire. Je n'ai pas le temps de parler maintenant, ce serait très trop complexe. En fait, ceux qui voulaient empêcher cette mise à l'index se sont pris trop tard et la mise à l'index a été effective. Bon, cependant, le grand historien qui était l'abbé Barbier avait vu clair. Les catholiques doivent donc aussi étudier l'encyclique du 22 janvier 1899 du pape Léon XIII contre l'américanisme, appelé Testem Benevolentiae. Je voudrais vous en lire quelques extraits pour vous aider à comprendre que les principes des américanistes allaient paver le chemin de la séparation de l'Église et de l'État. Les américanistes, autour de Mgr Gibbons, Mgr Ireland, Mgr England, les évêques d'origine irlandaise aux États-Unis à la fin de ce 19e siècle, étaient imbus de ces idées de séparation de l'Église et de l'État.